Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce 10-10 du mercredi. Ça y est, je vais pas y arriver. C'est le gag ici.
Le mercredi 10.
Tout le monde se moque de moi parce que j'ai un plan pas bien dans ma tête avec les dates. Donc du mercredi 10 décembre. Bienvenue, c'est Nathalie au micro. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée un peu particulière dans une émission un peu particulière. Puisque je vais juste vous dire bonjour et que je vais donner la parole à Joël Lopez qui vous a proposé une rencontre avec André Perrin.
Olga.
Non, mais la dernière fois.
Ah, pardon.
Joël. Oui, c'est la deuxième fois que tu viens sur notre antenne.
Exact.
Oui, voilà. Donc, Joël nous trouve des auteurs différents, qui parlent de thèmes différents, avec des voix différentes. Et aujourd'hui, c'est une invitée dont la voix compte dans le paysage de celles et ceux qui défendent la paix et la liberté d'expression. Donc, Joël, je vais te donner la main et te laisser présenter ton invitée.
Merci, Nathalie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Olga Solongo, qui est une autrice engagée, dont le travail s'inscrit depuis longtemps dans une réflexion sur la paix, la liberté d'expression et la société civile russe. Alors d'abord, je vais te présenter à nos auditeurs. Donc Olga Solongo, c'est un pseudonyme de plume et tu t'appelles dans la vie courante Olga Nikitina Denbesten. Tu es russe, polyglotte, tu parles très bien l'anglais, tu as vécu en Angleterre, le néerlandais, l'allemand, le français bien sûr, et tu vis à Montpellier depuis maintenant 13 ans avec ton mari, tes deux enfants. Et Olga, il n'y a pas que l'écriture dans ta vie, tu es diplômée de psychologie, tu enseignes la psychologie de l'adolescent à, je crois, une antenne montpelliéraine de l'université du Minnesota, c'est ça. Et tu enseignes aussi la créativité, le développement de la créativité à Montpellier Business School, l'ancienne école supérieure de commerce. Voilà, donc tu as plusieurs formations et expériences professionnelles dans le journalisme, la psychologie et la linguistique. Donc tu t'intéresses par ailleurs à l'art, la littérature, la musique, le chant. Je crois que je fais un portrait complet. Tu fais même partie d'une chorale, un air de famille qui est rattaché à l'opéra comédie.
Bah dis donc.
Donc Olga est vraiment une personnalité très intéressante. Je pense que certains de nos auditeurs peuvent t'avoir rencontré déjà sur les réseaux où tu es très présente et en tant qu'écrivaine notamment. Donc aujourd'hui, pour ce premier contact avec nos auditeurs, je vais te présenter en tant qu'autrice et avec la publication en septembre 2024 d'un ouvrage auquel tu as contribué, qui est paru aux éditions Les Petits Matins et qui s'intitule « Ces Russes qui s'opposent à la guerre ». Donc, c'est un ouvrage collectif. Autour de toi, il y a 4 auteurs engagés, comme toi, des journalistes, des militants, de la société civile russe et membres de la diaspora, qui ont rassemblé leurs voix pour rendre visibles les résistants qui existent, qui dénoncent la guerre et qui s'exposent aussi à des risques graves par ce faisant. Voilà. Le titre, donc, « Ces Russes qui s'opposent à la guerre ». Dans ce titre, Olga parle de lui-même et c'est dans le contexte toujours actuel, malheureusement, de la guerre d'Ukraine que ce recueil de textes se situe. Et donc, je peux dire aussi que tu es née en Sibérie orientale, à l'est de l'Oural, à Oulan-Oudé, et la frontière de la Mongolie, puisque tu vas parler après de un petit peu les ethnies. Tu fais partie des opposants à la guerre qui dure depuis février 2022. Et tu es toi-même avec tes amis à l'origine d'un mouvement montpelliérain qui s'appelle les Russes avec l'Ukraine. Donc, ma première question, on va parler de ce livre. Comment t'es venue l'idée, Olga, de participer, de contribuer à cette publication ?
Bonjour. Après le début de la guerre en Ukraine, il fallait faire quelque chose, même des immigrés de longue date, ici en France, on a senti la nécessité de s'exprimer, de faire quelque chose pour aider les Ukrainiens, pour exprimer notre solidarité. Donc, on a fondé ce collectif, Les Russes avec l'Ukraine à Montpellier. On a organisé des rassemblements. À ce titre, on s'est rencontrés à Paris avec l'association La Russie Liberté et sa présidente Olga Prokopieva. En parlant avec elle, elle m'a proposé de participer à l'écriture de l'ouvrage. En tant qu'ancien journaliste, j'ai cherché justement à m'exprimer comme ça. Et donc, avec plaisir, j'ai accepté cette proposition. Donc, c'est un livre de portrait journalistique.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la couverture est illustrée avec les portraits de ces personnalités dont vous parlez et qui sont les opposants.
Beaucoup de femmes.
Oui, alors il y a pas mal de femmes, effectivement. Et c'est aussi en même temps un combat qui est mené par des femmes et par certaines ethnies qui, en même temps de résister à la guerre, font aussi leurs revendications personnelles d'identité. Alors, quels sont ces différents opposants à la guerre dont tu parles, dont vous parlez, pardon, vous êtes 5 auteurs et autrices dans ce livre.
Donc, parmi les activistes dont les portraits sont présentés dans ce livre, la plupart sont des exiliés.
D'accord.
Parce que ils ne pouvaient plus rester en Russie. Il y avait des menaces pour leur sécurité. Il y avait ces labels, ces étiquettes qui ont été collées, des étiquettes légales pour dénoncer leur activité. Et donc, ces étiquettes sont l'agent étranger, voilà. Même si ils ne sont pas. Ils critiquent juste le régime. L'organisation indésirable, extrémistes et terroristes, tout ça menace leur existence en Russie. Et donc, la plupart sont partis. Mais le portrait qui peut-être frappe le plus est justement d'une activiste anonyme qui se présente sous le pseudonyme Aïda et qui représente la résistance féministe anti-guerre en Russie, qui est toujours en Russie, qui veut rester en Russie malgré tout, parce qu'elle dit qu'elle a, sur l'enterrement de notre grand opposant, à Poutine, Navalny, elle a ressenti cette solidarité avec une foule de Russes qui, malgré tout, sont venus pour exprimer leur tristesse à la mort de Navalny. Et donc, elle raconte ce mouvement, la résistance féministe anti-guerre, comment, par exemple, il publie un journal, Женская правда, la vérité des femmes, qu'il distribue aux clandestins. Et comment, par exemple, elle installe aussi des monuments, une sorte de monument public clandestin pour les victimes en Ukraine. Par exemple, ils ont fait une action pour les victimes de Mariupol, la ville assiégée et détruite complètement.
Et cette résistance est présente en Russie, donc toutes ces actions sont menées sur place.
Oui, cette organisation, en particulier les résistances féministes anti-guerre, fonctionne toujours en Russie, mais elle est très menacée. Elle est déclarée organisation indésirable et tout ça.
Ils courent de gros risques.
Oui, sinon les autres ont dû émigrer. Et donc, par exemple, on raconte un portrait d'un éditeur qui publie les livres qui a fondé la maison d'édition Freedom Letters. Et en tant qu'autrice, je connais maintenant d'autres maisons d'édition qui sont apparues comme ça. Il y a une quinzaine maximum, mais ça grandit ce mouvement et qui publie des livres qui sont impossibles en Russie.
Oui, très bien.
Et justement, mon roman est apparu dans une telle maison d'édition. Et en fait, ce phénomène s'appelle tamizdat, du mot tam, ailleurs qu'en Russie, à l'étranger, et izdat, publié.
D'accord. Donc là, tu parles d'un roman que peut-être on aura l'occasion d'aborder en fin de, d'émission.
Qui est sur la table, hein, d'ailleurs.
Voilà. Et qui s'appelle « Tramway vers la mer ».
Et
voilà.
Qu'on a le plaisir d'avoir l'écriture cyrillique.
Alors, bon, avant d'aborder ceci, je vais me concentrer, si tu veux, encore sur cet ouvrage. Tu cites aussi pas mal, enfin, vous parlez, pardon, de résistants, qui sont aussi des résistants, je vais dire, dans un combat pour leur identité ethnique. Je crois que tu en as rencontré certains, ou alors, de manière générale, as-tu rencontré personnellement certains résistants, et que peux-tu dire des liens que tu as avec eux?
Oui, c'est intéressant parce que justement, quand on m'a proposé la liste potentielle de nos héros et héroïnes pour ce livre, donc des personnages justement réels qu'on voulait mettre en lumière, j'ai choisi moi-même une personne que je connaissais parce que c'était ma camarade de classe, on peut dire ma camarade de même promotion, de la faculté des langues étrangères en Russie, en Buryatie.
D'accord.
Elle est bouriate, par origine ethnique. Natalia Arnaud, c'est oui. Le nom de son mari, et qui apparemment a pris un chemin d'une résistante, d'une activiste, après nos études. Et après nos études, on ne se croisait plus. Et là, on s'est croisés justement au forum de Russie Liberté à Paris.
À Paris, d'accord.
Et donc, Nathalie Arnaud a fondé une organisation très importante maintenant qui s'appelle Free Russia Foundation, donc la Russie libre, qui fait des actions en grande échelle qui aident les Ukrainiens. Donc, il y a beaucoup des Ukrainiens qui sont en captivité, des prisonniers de guerre en Russie, par exemple. Ils les aident. Oui, aussi, on peut appeler son organisation le ministère des Russes pro-démocratiques en Europe.
Ah,
donc, elle promeut ses intérêts en Europe. Elle a fondé des centres d'accueil pour ces Russes pro-démocratiques en plusieurs villes de l'Europe, y compris Paris. Donc oui, c'est vraiment les actions très importantes.
Je crois qu'ils appartiennent aussi au mouvement, enfin je ne sais pas elle, mais il y en a plusieurs de bouriates hein, dans ce,
oui,
dans
c'est
ce recueil.
Ça,
il y a,
exactement.
Et qui appartiennent aussi à un mouvement qui s'appelle la Buryatie libre. Donc ça, c'est en parallèle.
Oui, c'est une autre héroïne qui s'appelle Alexandra Garmojapova.
Okay.
Et qui représente donc la fondation la Buryatie libre.
D'accord.
Et cette fondation a eu ses origines après le début de la guerre. Car en mars 2022, Alexandra a eu une idée de faire une vidéo qui a été circulée sur les réseaux sociaux et qui proclamait, en fait, qui filmait plusieurs personnes d'origine bouriate partout dans le monde qui déclaraient « Je suis bouriate et je suis contre la guerre ». Donc, en fait, ils voulaient dissocier... Leur ethnie, leur origine, d'où l'intention de Poutine de mener cette guerre en Ukraine. Parce que lui, il a proclamé comme le but principal de la guerre au début, de dénazifier l'Ukraine.
Voilà. D'accord.
Comme si donc il y avait des fascistes en Ukraine. Et donc Alexandra Gormajapova a été... enragée contre ça parce qu'elle disait mais en fait il y a du racisme en Russie
exactement
et qu'elle notamment a senti elle-même voilà. qu'elle a expérimenté sur elle-même
oui
et en fait qu'elle a vécu
en tant que bouriate
à Saint-Pétersbourg comme elle a grandi à Saint-Pétersbourg
et ce mouvement
elle disait que non ça ne va pas en fait ce sont pas les bouriates qui sont non plus les combattants de Poutine.
Oui, ils veulent en fait ces résistants démystifier un petit peu cette image, la mauvaise image des bouriates qui circulent et qui les fait considérer aux yeux de l'opinion comme des soldats très violents de Poutine. Donc elle veut justement redonner une image aux bouriates tels qu'ils sont.
Oui,
voilà.
Exactement, parce que c'est beaucoup plus facile de nouveau de coller cette étiquette
tout à fait.
Au visage asiatique et de dire qu'ils sont plus violents.
Tout à fait.
Mais ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que Buryatia est malheureusement une région économiquement assez pauvre. Et donc, il y avait beaucoup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de soldats qui sont partis de notre région, soit par contrat, soit parce qu'ils voulaient avoir cette mobilité sociale, malheureusement, soit ils étaient mobilisés aussi en masse.
Très bien.
On va marquer une petite pause, Joël.
Oui, tout à fait.
Je te propose, c'est Olga qui l'a choisi pour nous.
Alors, Olga nous a choisi justement une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Noise MC, ou c'est un
en
groupe.
En fait, c'est plutôt une collègue de Noise MC.
Ah, d'accord.
Donc, Noise MC est un grand chanteur résistant, rappeur pour la paix. Et justement, avec... on peut dire sa collègue de scène, Monia Tochka, ils ont fait des marathons « The Voices of Peace », donc les voix de la paix, pour lever le fond, pour aider l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, ils font ça. Et donc Monia Tochka, c'est une chanteuse dans la trentaine, très populaire en ce moment, qui chante... les chansons qu'elle écrit elle-même et qui sont du style un peu faussement naïf. Et donc, cette chanson en particulier s'appelle « Une fois en Russie », qui est très, très nostalgique. Beaucoup de gens pleurent en l'attendant parce que ça parle de la patrie. On a été déprivés de notre patrie. On ne peut pas y revenir parce que ça menace notre sécurité, mais aussi parce que... tout est changé. En fait, on ne sait pas de quel côté sont ses habitants, nos anciens amis, on peut dire. Et il dit quand même qu'on a quand même ce rêve de la Russie dont on ne peut pas nous dépriver.
Merci beaucoup.
On écoute et on se retrouve juste après.
Стерся в памяти адреси, номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор. Продавщицу смешную в отделе колбас, и как Витя меня целовал в первый раз. Как толкнула ногой самокат оседлав, и как дура к нему покатилась стремглав. Помню пластырь на сол, драной кожи в локте, и закаты каких не бывает нигде. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. И какой бы теперь не купила билет, своего уже нет, и своих уже нет. Больше некому встретить с табличкой в руке, и пою там теперь на другом языке. Так несбыточно, что бесполезно мечтать. Все открыты замки, а на главном печать. И не жалко совсем, и не хочется, но не забыть бы в пути мой расплывчатый сон. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. Thank you.
старый раз стерся в памяти адресы, номер с тех пор. Но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас, и как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адресы.
Oui, je voudrais ajouter que pour cette chanson, pour avoir chanté cette chanson et les chansons de Noise MC, une chanteuse de 18 ans, sous le nom de Sen Naoko, a été arrêtée à Saint-Pétersbourg parce qu'elle a chanté publiquement sur les places de Saint-Pétersbourg. Et elle a été arrêtée et elle a été tenue, voilà, elle est restée en détention un mois environ, avec le guitariste de son groupe aussi. Et ça produit beaucoup de résonance sur les réseaux sociaux, justement. Donc, les Russes, quand même, ont protesté. Et donc, elle a été relâchée, heureusement. Elle a pu quitter le pays, même si c'est aussi difficile de se trouver du jour au lendemain en migration à 18 ans.
J'imagine
Mais
bien.
Au moins, oui. Voilà, oui. C'était une histoire avec la fin heureuse.
Très bien.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont finissent en prison.
Bien sûr. Donc, beaucoup de courage de la part de ces jeunes et moins jeunes, de tous ces résistants. Et donc, c'est intéressant, c'est très intéressant que tu nous dises, tu portes témoignage de ces actions qui sont admirables. Hein, bon. Donc, en fait, quel est le but pour vous, auteur et co-auteur, de cette publication en France, justement?
C'est de faire connaître cette résistance russe, parce que, comme dit Marie Mandras, sociologue, dans sa préface...
Oui, c'est elle qui a fait la préface.
On ne peut plus dire l'opposition, parce que Poutine a écrasé tous ses opposants. Ils sont tous soit en prison, soit malheureusement assassinés, comme Navalny, assassiné en prison au Grand Nord de Russie. Mm-hmm. L'année dernière. Donc, on parle de la résistance russe. Mais il faut les connaître, ces résistants, parce qu'ils font quand même beaucoup de choses, beaucoup d'actions différentes.
Tout à fait. Et à la fin de chaque chapitre de ce recueil, chacune de ces personnalités s'exprime sur ce qu'elle ou il attend de la résistance, à travers son action et celle des autres. Et donc... Il s'agit aussi de montrer que ces résistants sont très courageux, ils prennent de très grands risques, qu'ils soient sur place, en Russie ou exilés. Et d'ailleurs, la postface est écrite à la mémoire d'Alexeï Navalny, et qui est une figure bien sûr emblématique. Donc du coup, je pense que c'était très important pour toi et pour nous de faire connaître cet ouvrage. On te remercie beaucoup. Si tu n'as rien d'autre à ajouter sur ce livre, je voulais donc aussi te présenter en tant qu'autrice d'une nouvelle œuvre, cette fois une œuvre de fiction, que tu as écrite. Donc, c'est un roman écrit en russe, publié dernièrement, en septembre 2025, chez Sanderman Publishing, qui est un éditeur suisse. Donc, ce livre est écrit en russe. Le titre est quand même en anglais. Alors ça, je ne sais pas si tu peux expliquer pourquoi
si
le titre...
Si c'est en russe, oui. Ça s'appelle... mais juste, je vais le traduire parce que bon,
oui.
C'est Tramway vers la mer.
Oui.
Tramway vers la mer, élégie sur le fond du début de la guerre. Donc, l'action se passe dans les premiers 3-4 mois de la guerre. Mais ici, dans le sud de la France, dans la ville M, dans le roman, ça s'appelle comme
je
ça.
Je comprends mieux le tramway maintenant.
Voilà.
Oui, c'est ça.
C'est très exactement. Emblématique, donc, c'est... le M oui, avec le tramway, oui.
Et
c'est vrai que c'est... le personnage principal, c'est une émigrée russe en France.
D'accord.
Et les grandes questions, c'est que se passe-t-il lorsque la grande histoire envahit nos vies?
La petite histoire, oui.
Oui, la grande
histoire dans
la grande
petite
histoire.
Histoire
oui, c'est ça.
C'est ça.
Et justement, comment on réagit si on reçoit, ok, peut-être pas de bombes sur nos têtes, mais de mauvaises nouvelles sur nos écrans, sur les pages de journaux, sur nos pages de réseaux sociaux. Et donc les gens réagissent différemment, justement. Et donc, on vient de parler des résistants. Ce sont des gens très courageux et c'est vraiment les gens les plus actifs, peut-être, de la société. Mais pas tout le monde est comme ça. Certains sont en déni. Certains sont en réflexion et cherchent même les théories de conspiracy theories, les théories de complot. Certains expriment leur empathie à travers l'aide aux réfugiés, à travers le lever des fonds
des actions plus modestes au quotidien.
C'est ça. Mm-hmm. Ou bien certains trouvent leur escapisme, on peut dire, dans une relation romantique, par exemple. Et donc, c'est ça qui explore le roman. En fait, c'est une histoire romantique sur le fond du début de la guerre en Ukraine, quand vraiment le choc se traduit par la recherche d'une relation et par une attirance à quelqu'un qui peut comprendre.
D'accord. En fait, quand tu parles de escapisme, pour nos auditeurs, tu peux un petit peu éclairer, c'est-à-dire que cette héroïne, en fait, dans quelle mesure son histoire peut s'inscrire aussi dans un engagement pour la paix?
D'un côté, c'est une évasion.
C'est une évasion, voilà.
Quand même dans une relation, mais c'est aussi, j'explore aussi le phénomène de la sublimation, dans le sens de s'exprimer dans l'art, mais aussi de l'empathie vers les victimes de la guerre, la solidarité à travers l'art, à travers la musique. Et donc, mon héroïne, elle organise un concert pour la paix. Et c'est bon, ça c'est un peu le spoiler, mais...
c'est très bien. Oui, on voit comment tu continues toi-même, à travers l'écriture, à défendre tes valeurs et ton engagement.
C'est ça, pour
engagement.
Moi c'est aussi, voilà. c'est la même histoire. Pour moi, c'est la sublimation dans l'écriture. Mm-hmm. Oui.
Il y a une chance de le lire en français, Joël?
Je pense qu'il n'est pas encore traduit. Je ne sais pas si un jour tu envisages.
Je suis en train de travailler sur la traduction, donc j'espère que bientôt
le roman va
apparaître aussi en France.
Et le fait que tu aies mis le titre en anglais, tu envisages aussi la traduction d'abord en anglais, peut-être?
J'espère bien.
Oui. Et donc, ça me rappelle ce que tu disais dans une autre interview. Sur une autre radio, qu'il ne fallait pas, pour toi, c'est important de ne pas rester dans sa bulle personnelle. C'est important, bien sûr, quand on est exilé, ou encore plus sur place, de chercher à sauvegarder sa famille, les siens, on a peur, mais de faire aussi, par des petites actions, de montrer sa solidarité par des petits actes, avec tous ces résistants qui, eux, sont à plus grande échelle. Qui expriment leur et qui se battent sur une échelle plus visible.
Oui, c'est donc, ça, je pense que chaque pas compte.
Ça serait facile pour vous de trouver un éditeur pour le faire paraître en français?
J'espère. je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est vrai que le fait que c'est très actuel, ça attire les gens, aussi les gens qui veulent comprendre plus les réactions, les sentiments via des choses qui se passent dans le monde. J'ai eu même un retour, par exemple, d'une Turque qui m'a dit que je comprends parfaitement bien les émotions, les réactions de cette Elena, l'héroïne du roman, parce que j'ai vécu les émotions pareilles par rapport à mon pays qui est la Turquie. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'espère que ça va être intéressant aussi pour d'autres personnes, pas que pour les Russes ou pour les Ukrainiens.
Les exilés les ressortissants de pays.
Et il y a beaucoup de thèmes interculturels aussi.
Tout à fait.
Joël, tu as encore 4 minutes.
Oui, hein, si tu veux continuer. Moi, je salue vraiment Olga. J'espère que nos auditeurs vont être curieux et ceux qui ne la connaissent pas, en tout cas, d'aller voir un petit peu.
Il y a une question qui m'intrigue, Joël. C'est ce texte en anglais dedans, un peu comme une poésie.
Ah oui, alors tu peux expliquer ça, effectivement. Et c'est une poésie.
Oui, effectivement.
C'est un poème.
Mi-français, mi-anglais d'ailleurs. Hein.
C'est ça, à peu près dans le deux tiers, après les deux
We
tiers du roman.
We won't see each other, c'est un fait.
Oui.
Yet I tried to Gazette Café. Bon, j'ai un accent absolument abominable, donc je ne continuerai pas. Mais peut-être vous pouvez nous lire le premier, parce que vous parlez bien anglais.
C'est la dernière lettre du personnage principal, Elena, à son amoureux, qui s'appelle Vlad. C'est un prénom symbolique. Et effectivement, on peut voir des endroits à Montpellier qui sont mentionnés.
Je vous laisse lire juste le premier passage.
We won't see each other, c'est un fait. Yet I trotted to Gazette Café. You said I didn't understand your OCD, but it fell so suddenly and heavily on me, felt so painful to me. I was so happy just the day before, on Sunday after the party in Domaine d'Eau. The kids were playing under huge pine trees, and we all fell asleep, exhausted as we were, lulled by the harp and, oh so modern and feminist, le feuilleton d'Artemis.
J'ai bien fallu laisser la parole,
je crois. Ah oui, je crois. Oui, comme je répète, elle est parfaitement bilingue, anglais, français et polyglotte.
Oui, ça,
merci beaucoup pour cette lecture,
Joël. Parce oui, que non,
c'est vrai aussi. Que voilà,
en tout cas une femme exceptionnelle. Hein.
Oui. Voilà.
Donc. Tu as le temps d'une dernière question, Joël. Une
oui,
minute, si tu veux.
Alors effectivement, est-ce que tu as un autre projet, puisque là tu en es à ta deuxième parution, je crois. Est-ce que tu as un autre projet littéraire en cours?
En ce moment, j'écris un livre en français qui s'appelle « Mon abécédaire soviétique » et qui présente pour chaque lettre de l'alphabet cyrillique quelques souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse, qui commencent avec ce mot qui parle du phénomène, du mot qui commence avec cette lettre. Et donc, ce sont des souvenirs avec un peu d'humour et en même temps qui exposent voilà, la culture de l'Union soviétique à l'époque, de la Russie, et qui parlent bien sûr des réalités d'aujourd'hui aussi.
Ça a l'air très intéressant, très oui. Alléchant.
Merci vraiment beaucoup, Joël, de nous avoir présenté Olga. Je te ne remercierai jamais assez. Et on comprend par cet échange nous rappelle combien il est essentiel de continuer à défendre la paix, d'entendre des voix différentes surtout. C'est une chance que tu nous as donnée là, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une vox, et que maintenant on attaque en plus l'Ukraine beaucoup. Les mobilisations, et Olga nous l'a dit, sont rares en Europe et nécessaires. Merci beaucoup, Olga, pour ce témoignage, vraiment.
Merci, Nathalie et Joël.
Merci encore, Joël, pour nous avoir proposé cette rencontre. Je rappelle le titre.
Alors, je le rappelle, donc, Russes qui s'opposent à la guerre. Donc, je ne vais pas dire tous les auteurs. La préface est de Marie Mendras. Et c'est paru aux éditions Les Petits Matins.
Et ça vaut que 12 euros. Voilà. Ben, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir partagé avec nous ce 10-10 de Radio FM+. C'était Yann qui nous accompagnait aujourd'hui à la technique. Et on se retrouve demain, jeudi, pour un 10-10 musical. Ça sera encore moi. Ça sera une chouette découverte d'un artiste qui est comédien et qui est aussi chanteur. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Merci, Olga. Merci, Nathalie.
Et à la prochaine à pour un autre 10-10. Thank you.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcel 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcel 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.